Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec notre invité politique. Cette semaine, il s'agit du ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini. Bonsoir Stanislas Guérini.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation à venir sur le plateau de Backseat.
Je suis content d'être là, c'est l'avant-dernière, c'est ça?
C'est l'avant-dernière de la saison, absolument, merci d'être là.
Avant la saison 3 donc.
Avant la saison 3, on croise tous les doigts. Vous êtes, je le disais, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. La Fonction publique donc c'est la direction et la gestion des fonctions publiques et des agents de l'État, on peut dire ça comme ça?
Ah ouais,
voilà.
Tous les agents de l'État.
Tous les agents de l'État.
Des trois versants, ceux qui bossent dans les hôpitaux, ceux qui bossent dans les collectivités, ceux qui bossent dans les ministères, dans les administrations, à
Exactement.
Paris ou partout sur le terrain.
Vous avez également été délégué général de La République En Marche de 2018 à 2022 et vous avez été cofondateur de La République En Marche à sa
tout
fondation. Voilà, tout est vrai jusque-là. On va en parler de tout ça, on a beaucoup de questions à vous poser. Avant ça, sur le côté transformation publique, il y a aussi transformation dans l'intitulé de votre ministère. Ça veut dire quoi? Vous transformez quoi? Parce qu'on a déjà connu des plans de transformation de l'action
c'est
publique.
C'est souvent une question qu'on me pose sur ça veut dire quoi
Bah, ça veut dire quoi surtout vous transformez quoi? Parce que moi, j'ai connu la RGPP, il y avait la modernisation de l'action publique, c'était sous Hollande, la RGPP, c'était Sarko. Il y a eu CAP 2022, le comité d'action publique 2022 pour le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il reste quoi à transformer là?
Alors, peut-être qu'on va le dire plus simplement.
Ouais.
En fait, il y a fonction publique, ça c'est les gens.
Oui.
Ils font le boulot, les fonctionnaires, et c'est une grosse partie de mon boulot. Et puis, il y a service public au fond. C'est ça, au fond, l'intitulé du ministère, transformation et fonction publique, pour moi, c'est ces deux versants-là. C'est comment est-ce qu'on accompagne les gens qui font le boulot au quotidien.
D'accord.
Ça veut dire sur la fiche de paie, ça veut dire dans leurs conditions de travail, ça veut dire dans le sens qu'on leur donne. Et puis, comment est-ce qu'on réinvestit sur nos services publics. Je dis en disant ça,
alors
parce
vous
que
parlez
la question c'est,
ouais.
Vous dites, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a plein de trucs qui restent à faire. Et je pense, et je le dis humblement, y compris que nous-mêmes, on a tiré les enseignements de ce qu'avait été le premier quinquennat.
Ah bah justement, alors, justement on va en parler. Parce que je le
en
disais.
En 2022, que ce qu'on a fait en 2017.
Des plans de transformation, des plans de modernisation, de révision de l'action publique, on en a connu un paquet. J'ai envie de dire, le bilan auquel on arrive aujourd'hui, c'est que les Français dénoncent la dégradation des services publics. Les Français trouvent qu'il n'y en a pas assez des services publics.
Ouais, mais je suis d'accord avec vous. Et je pense qu'il faut un peu arrêter. C'est pour ça que je préfère parler au fond de services publics que de transformation, parce que vous avez raison, il y a eu 10 000 sujets de plans de transformation, etc. Le but du jeu, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire sur le terrain. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse piloter. Je mentionnais le dernier quinquennat. Il y a eu 2-3 crises dans le dernier quinquennat,
ouais, quelques-unes,
dont une crise sanitaire. Et en fait, on a tiré plein de leçons de cette crise sanitaire.
Bah, lesquelles? Parce que du coup, ça visiblement, bah, ça
je vais essayer de,
pas sur le terrain, mais alors allez-y.
Concret, mais en fait, pendant la crise sanitaire, on a juste fait différemment. Alors au début, on n'a pas tellement bien géré. Et puis ensuite, petit à petit, bah, on s'est quand même sorti de cette affaire et pas beaucoup plus mal que nos voisins.
C'était pas un échec, ça n'a pas marché.
J'essaie de vous dire la vérité.
C'est bien.
Je pense qu'on n'a pas forcément super bien démarré. Mais,
on peut le dire, il y a eu un maximum d'argent qui est arrivé aussi.
Il y a eu un moment.
L'État y est allé à fond.
De temps en temps, j'entends néolibéral, etc. On pourra y revenir, mais je pense
qu'on va y revenir.
On a fait 2-3 trucs en matière d'investissement public à ce moment-là où je pense qu'on n'a pas à rougir de ce que faisaient d'autres pays notamment. Mais il y a un truc qu'on a fait très différemment, c'est qu'on a arrêté de nous regarder le nombril d'un point de vue gestion administrative. En gros, l'administration classique, c'est de se dire, on va faire selon nos process, selon notre organisation, et puis si vous n'êtes pas au bon bureau, c'est parce qu'il faut aller à l'autre bureau, etc. Tout d'un coup, il y a eu un moment très simple où il y avait un objectif, c'était de se sortir de ce merdier, et on a aligné toutes les planètes. C'est-à-dire qu'on a dit, c'est quoi les objectifs sur le terrain? On a raccourci les chaînes hiérarchiques, on a permis à des gens de faire pas forcément ce qu'ils faisaient au quotidien dans les administrations. On a fait confiance.
Je vois ce que vous voulez dire,
on a
aussi eu des mairies
qui ont de prise de risque.
C'est des collectivités
c'est
des collectivités locales qui ont porté à bout de bras. C'est des
tout.
Personnels soignants aussi à l'hôpital qui étaient épuisés. Enfin,
c'est tous ensemble. En fait,
ouais.
Moi, il y a deux trucs auxquels je crois pas. Je vais vous dire, c'est laisser faire. Et je pense que on sort de beaucoup de décennies. Vous parlez beaucoup de ça au fond, d'idéologie d'action, de ce qui a été. On a appelé ça, pardon de vous dire des gros mots, le New Public Management.
Ouais,
c'était de dire.
J'allais dire le gros mot.
Ça, pour moi, c'est un truc qui est dépassé. Et c'est-à-dire. J'arrive. Laissez-moi venir et je vous jure
allez-y.
J'ai encore rien dit.
Je vais poser des questions. Mais.
T'inquiète. Mais après, je voudrais bien que tu définisses.
Je vais essayer de le.
Non, mais ça va être intéressant. Vous avez quand même souvent entendu des ministres de la fonction publique parler de la fonction publique pour dire combien de fonctionnaires ils voulaient supprimer.
Oui, ça, c'est vrai.
C'est pas mon cas. Et je suis un ministre de la fonction publique dont le mandat ne repose pas sur des suppressions de postes de fonctionnaires. Il y a un truc, c'est moi je ne crois plus à l'idée de tout externaliser. Mais il y a un autre truc auquel je ne crois pas, c'est l'idée que l'État va pouvoir faire tout seul. Quand on voit les grands défis qu'on a devant nous, la transition écologique, la transition numérique, la transition démographique, l'idée
faut
que
McKinsey, faut des conseils.
On puisse piloter simplement avec la fonction publique et puis le reste du monde de l'autre côté, c'est un truc qui marche pas et tout. Et je suis prêt à l'assumer devant vous.
On retrouve un peu en même temps dans ce
que vous dites. Mais en même temps, c'est pas juste un équilibre, un peu de ci, un peu de ça. C'est de croire à des choses. Il y a un truc, je vous ai entendu tout à l'heure, j'étais en voiture et je venais, je vous écoutais, vous dites, il n'y a pas d'idéologie. Moi, je crois qu'il y a de l'idéologie.
Il n'y a pas d'idéologie. Je dis,
il n'y a pas de politique. Mais moi, je crois au contraire que ce quinquennat, c'est un quinquennat aussi du retour de la politique, du réinvestissement sur le terrain. Après, il faut faire des choix. Parce qu'on ne peut pas
se dire.
Il y a ceux qui disent qu'il faut moins de fonctionnaires, et puis ceux qui disent, pour bien faire le boulot, en gros, la seule réponse, ça serait de mettre 10 fonctionnaires pour faire le job. Donc, moi, je pense qu'on doit inventer un truc nouveau. Ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas faire seul, c'est faire ensemble. Et pendant la crise sanitaire, c'est ça qu'on a plutôt bien fait. Et il y a plein de fonctionnaires, et je pense que ça explique des choses aussi du malaise dans les hôpitaux, par exemple, qui n'ont pas envie de revenir à la situation d'avant. Parce que pendant un temps, on les a laissés faire un peu différemment. On leur a dit, tiens, si tu fais un truc, prends une initiative, prends des risques, c'est pas grave, on a le droit de se tromper. Moi, j'ai été rapporteur d'une loi qui s'appelait le droit à l'erreur.
Ouais, je m'en souviens.
On l'a fait pour les usagers. Ben, je pense qu'il faut faire le droit à l'erreur pour les agents de la fonction publique.
Jules.
Et c'est aussi un mode de pilotage différent.
Bon, les agents de la fonction publique, en effet, c'est plein de monde, plein de gens différents. Il y a les hauts fonctionnaires, il y a les gens qui nous soignent, les gens qui nous enseignent des choses à nos enfants, les gens qui nous tapent dessus aussi, ça fait partie aussi de la fonction publique. Et la question, c'est ces gens sont traités quand même assez différemment. À partir du moment où, il y a 10 ans, on a choisi de geler le point d'indice, on s'est dit, on va faire autrement, on va faire des primes, on va essayer d'intéresser les fonctionnaires à leur mission, intéresser dans le sens intéressement.
Ouais, hein, ouais.
Parce que normalement, quand on devient fonctionnaire, on est plus ou moins quand même intéressé par ce qu'on va faire, hein, à la base. Et il y a plutôt des études qui ont montré que c'est pas comme ça qu'on motive le mieux les fonctionnaires, c'est pas avec des primes et des carottes et des machins, mais c'est plutôt en leur permettant d'avoir du sens dans le travail. Et c'est quoi les pistes, là, pour leur permettre de retrouver du sens dans le travail, en sachant que bon, là, s'il est question de transformer, on l'a dit, les RGPP, il y a eu des grandes transformations, voilà, le New Public Management, etc. Ça a été des années et des années de destruction de postes, de non-remplacement, de « allez, vous allez faire plus, mais avec moins, mais mieux ». Vous allez faire mieux avec moins. Et puis, des gens se sont épuisés dans leur travail, les professions sont devenues de moins en moins attractives et payées de plus en plus de manière soit arbitraire, soit très différente selon les secteurs dans lesquels on va bosser. Alors que le point d'indice, au contraire, permettait d'unifier un petit peu ce truc-là. Donc, comment on permet aux gens de redonner, de réinvestir leur boulot et de leur redonner du sens ?
Bon, d'abord, ça, c'est mon job au quotidien. C'est ma priorité numéro un.
Mais on garde ce truc des primes, là, parce que ça...
Vous avez annoncé, en
l'occurrence, des primes. Là aussi, je vais vraiment au bout du truc. Moi, ma priorité numéro un, c'est de faire en sorte que les gens, ils aient à nouveau envie de rejoindre la fonction publique et de rester dans la fonction publique. C'est quand même deux sujets. Que ça soit dans la police, dans les hôpitaux, mais aussi des métiers dont on parle beaucoup moins souvent, des filières administratives. Moi, je m'intéresse beaucoup aux secrétaires de mairie, par exemple. Ben, voilà, elles font, je dis elles parce qu'elles sont 94% de femmes, elles font tenir les mairies, et c'est des métiers auxquels il faut s'intéresser. Je pense que si on veut réussir ça, d'abord, il faut être très lucide. Il y a eu 2 fois moins de candidats au concours de la fonction publique en 10 ans. Voilà,
ça, oui, c'est ça n'attire plus.
Donc d'abord, partons de la réalité. Moi, je pense qu'on est toujours quand même mieux pour ensuite agir quand on regarde la situation telle qu'elle est. Mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Et si on veut répondre à ça, il y a un sujet qui est un sujet fiche de paye.
Ouais.
Je pense que si on regarde à côté...
L'organisation du travail. Hein.
Ah ouais,
est-ce qu'on est épanoui dans notre travail?
Si
l'organisation
reste,
du travail, ça. C'est
pas en se disant que ça compte pas la fiche de paye, je pense qu'on se raconte des histoires. Il y a aussi un sujet fiche de paye.
Ouais.
Et puis, il y a tout ce qu'il y a autour de la fiche de paye. C'est-à-dire à la fois le sens, c'est la question que vous me posez. Moi, je crois qu'il n'y a pas de plus grand défi aujourd'hui que de venir rejoindre la fonction publique. Parce que ce qu'on doit relever tous ensemble, je mentionnais les grandes transitions qui sont devant nous, c'est le défi de notre génération. Aujourd'hui, tout à l'heure, c'est par hasard, je suis tombé sur des gens qui étaient dans le public pendant la pause. Alors, ils disent, vous venez d'où ? Il s'avère qu'ils étaient du ministère de l'écologie. Spécial dédicace, je ne sais pas où vous êtes.
Bon, Christophe Béchu.
Aujourd'hui, si tu nous regardes, Christophe, je te salue. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus passionnant que de se dire, je vais venir faire la transition écologique. Un bout chez Christophe Béchu au ministère de l'écologie.
Ça répond pas à la question.
Le lendemain, Alain Bonnefoy pour décarboner.
C'est toujours porteur de sens.
Donc, évidemment qu'il y a du sens. Mais, je complète juste d'un mot pour être complet sur le sujet. Il faut être crédible sur le sens. Moi, je crois de moins en moins aux grands discours un peu désincarnés, etc. En réalité, le sens, c'est aussi ce qui se passe au quotidien. C'est les conditions de travail.
C'est
pour ça que moi, je bosse beaucoup là-dessus. Mais je ne fais pas qu'en parler. Moi, je travaille sur ces sujets-là. Je vais vous donner des exemples très concrets. améliorer les conditions de travail, c'est par exemple s'intéresser à la santé au travail, à la santé des femmes. Cette semaine, c'est la semaine dernière, je vous donne des trucs concrets. Il y avait un jour de carence pour les femmes fonctionnaires qui subissaient une fausse couche. Bah, je pense que c'était indigne. On a supprimé ce truc-là. On a fait une loi, adoptée à l'unanimité, moins le Rassemblement national, à l'Assemblée nationale et au Sénat, unanimité, pour faire en sorte qu'on nomme plus de femmes dans les postes d'encadrement à responsabilité dans la fonction. Ouais. Ça, c'est la semaine dernière. On a fait ces sujets-là. La semaine dernière, on a amélioré les conditions des secrétaires. Vous voyez, c'est tout un tas de trucs.
Qui fait le lien avec, tout à l'heure, j'ai pas dit McKinsey non plus complètement gratuitement, mais quand vous disiez il faut arriver à faire ensemble, etc. C'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai rencontré un mec qui bosse à McKinsey et qui m'a dit, moi, en fait, le boulot que je fais, là, payé, en effet, pas mal bien payé, ouais, le boulot que je fais pour l'État, l'État est plus foutu de le faire, il y a eu des pertes de compétences, et en fait, moi, je serais assez ravi de pouvoir le faire pour l'État, avec l'État, être fonctionnaire. Même pour
un boulot de conseil, en l'occurrence.
Oui, bah, le boulot d'organisation, de haut fonctionnaire.
C'est ça qu'il disait.
Lui, il disait, moi, j'aimerais bien le faire en interne, en fait, mais ils n'ouvrent pas de poste.
Non. Donc, moi, je suis très, très à l'aise pour répondre à cette question.
Allez-y. Il y a eu des pertes de compétences.
On est arrivé, c'était en pleine campagne, il y avait l'affaire McKinsey, etc. Mmh. Bon. Ça, c'est un sujet, hein, je l'ai pris premier jour. C'était un des dossiers qui était posé sur la table tout de suite.
Il devait être chaud, celui-là.
Il y avait des sénateurs qui voulaient qu'on avance sur ce sujet. Et donc, j'ai aucun problème là-dessus. On avait dit, on va réduire de 15% les dépenses sur les prestations de conseil en stratégie. Vous savez combien on a fait l'année dernière ? C'est marrant parce qu'il n'y a eu aucun papier pour le dire. Moins 35%. Mmh. Et on aura le débat budgétaire, je vais mettre tout ça dans les documents budgétaires. Mmh. Donc, tout sera vérifiable. Moins 35%. Mmh. Ensuite, l'autre sujet...
Mais sachez de faire en sorte que les gens dont on a besoin dans McKinsey, ils soient directement dans la fonction publique.
L'autre sujet, c'est comment on réinternalise les compétences.
Voilà,
c'est en vrai, comment on réarme l'État sur des compétences. Bah, vous savez, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai une administration qui s'appelle la Direction interministérielle de la transformation publique. Pardon pour le gros mot, la DITP. C'est toujours des acronymes,
on sait. Ouais, on les embrasse
un tout petit peu. On les embrasse. Mais ils sont en train d'embaucher. On a validé des postes dans le budget pour réembaucher. Mais je vais vous dire un truc. Si vous regardez que McKinsey, vous passez à côté d'un énorme bout du sujet. D'un énorme bout du sujet. Parce que, j'essaie de vous dire la vérité, je pense qu'on a un sujet d'État stratège. Il y a plein de gens qui savent faire de l'État stratège dans l'État. Il faut mieux les mobiliser. Il faut qu'on sache, d'ailleurs, mieux cartographier les compétences des uns et des autres, savoir qui peut faire quoi, etc., pour ne pas externaliser. Mais l'énorme sujet, c'est beaucoup plus un sujet de maîtrise d'ouvrage. Moi, ce dont je me rends compte tous les jours, c'est que là où on s'est beaucoup affaibli ces dernières années, c'est sur des sujets beaucoup plus concrets que les conseils en stratégie. C'est la capacité à faire de l'immobilier. C'est des ingénieurs pour faire la transition écologique. Vous voyez, j'ai lancé un plan de sobriété pour l'État. On est en train de le réussir. Mais il faut remettre du monde sur le terrain. Ça s'appelle des energy managers pour aller dans les chaudières, des bâtiments publics, voir comment on peut économiser ça. Et en fait, on manque de ces bras-là. Et ça, ces sujets, c'est les vrais sujets. Le numérique, on manque d'experts de numérique dans la fonction publique. J'ai quand même, il y a quelques jours, annoncé... qu'on va lancer un plan pour réinternaliser 3500 jobs dans le numérique. Au moment où on se parle, il y a 4500 emplois qui sont ouverts. J'en profite.
Allez-y, ça embauche. Envoyez vos CV.
Ça s'appelle choisirleleservicepublic.fr. Bon, ben, ça peut être utile. Je ne sais pas si on a le droit d'afficher des trucs.
Oui, non, mais on peut mettre dans le chat.
Eh ben, mettez-le dans le chat.
Donnez de l'argent quand même.
Voilà. J'ai compris, 25%. On monte,
Pour revenir un peu à cette notion justement d'engagement, là, vous êtes en train de dire qu'il y a des postes qui s'ouvrent, etc., que vous êtes en train de recruter.
Il y a 60 000, là, maintenant.
60 000, c'est énorme. Mais vous disiez par ailleurs que les concours sont un peu boudés et qu'il y a de moins en moins de personnes qui a vraisemblablement envie de bosser dans la fonction publique. Vous parliez du sens, etc., etc. La fonction publique, ce n'est rien d'autre, finalement, que le bras armé de l'État et du gouvernement pour mettre en place les politiques publiques qui sont choisies par le gouvernement. Est-ce que, finalement, ce n'est pas votre politique qui pose problème aux gens et qui se disent, finalement, moi, je n'ai pas envie de m'engager avec ce gouvernement. Ce que ce gouvernement est en train de faire en matière sociale, ce que ce gouvernement est en train de faire en matière écologique, en matière économique, etc., etc., ce n'est pas ma vision des choses. Ce n'est pas ce que j'ai envie de défendre. Parce qu'il y a ça aussi, quand on est fonctionnaire et qu'on s'engage au niveau territorial, au niveau étatique, etc. Mais même, moi, j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai été diplomate. J'avais envie, en fait, de servir le gouvernement pour lequel je bossais. J'étais contente de porter un certain nombre de réformes, etc. C'était le précédent. Bon, maintenant, j'en suis revenue, certes, mais voilà, il y a quand même un certain engagement. Il y a un certain engagement. Je veux dire, on n'y va pas les yeux fermés. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas
Je ne sais pas, d'abord, de quelle politique publique vous parlez. Moi, je suis sincèrement plutôt fier.
Des grandes lignes.
Non, mais je suis plutôt fier d'être dans un gouvernement qui augmente le salaire des professeurs comme on ne l'avait pas augmenté depuis bien longtemps. Je suis plutôt fier d'être dans un gouvernement.
Il y a des profs dans le public, hein. Ça fait
pouf. Ouais, bah d'accord. Ça fait ricaner. Pardon.
ils ont fait peu.
Je remercie pour les applaudissements.
Non, mais pareil, pour les profs, on repart sur un truc à base de primes. S'ils acceptent les nouveaux machins, etc., on se toujours à la carte.
Non.
Stanislas Guérini.
Si, il y a une augmentation des primes.
Soyons précis là-dessus.
Sur le volontariat.
On a annoncé des choses, c'est mon collègue Papendia qui l'a fait, pour dire on va remettre 3 milliards d'euros pour mieux rémunérer les professeurs. On a 2 milliards, pas des primes.
En fait, c'est plus une vision macro. C'est une vision macro, en fait. D'abord, ça veut dire dans quelle société on a envie d'évoluer, comment on construit les choses, qu'est-ce qu'on prévoit pour demain, pour le futur, qu'est-ce qu'on fait en matière environnementale, en matière de tout, de l'éducation aussi. Peut-être qu'on a l'impression que vous méprisez un certain nombre de secteurs publics. On le voit, l'hôpital est tabou, les soignants sont tabous, les profs sont tabous, tout le monde est tabou.
On va vous laisser parler. Le chat réclame qu'on vous laisse parler.
Le premier niveau, merci le chat. la première réponse, c'est d'abord vous me dites, est-ce qu'on est sincèrement fiers de s'engager pour cette politique publique-là ? Je ne peux pas vous laisser dire que c'est une politique publique où on désinvestit, etc. C'est pour ça que je me permettais de prendre une minute pour dire qu'on investit sur l'éducation. Jamais le budget du ministère de l'Éducation nationale, il avait été aussi élevé. On le fait sur la justice, on le fait sur l'hôpital. Alors on part de très loin. Je suis d'accord avec vous que l'hôpital public, il avait été très abîmé. D'ailleurs, par des gouvernements de gauche, en l'occurrence.
Oui, entre autres, bien sûr.
Et donc, il y a beaucoup de politiques où
votre
on réinvestit. Mais,
vous avez été strauss-kahnien.
Je vous laisse avec vos propres référentiels. Mais donc, d'abord, moi, je n'ai pas du tout le sentiment de faire partie d'un gouvernement néolibéral, austéritaire, qui n'investit pas sur nos services publics et la puissance publique. Et le deuxième élément que je voulais vous dire, c'est qu'au fond, la question que vous me posez, pardon, mais moi, je n'ai jamais ces échanges-là avec les fonctionnaires que je rencontre. Je rencontre plein de fonctionnaires qui sont d'abord fiers de faire leur boulot parce qu'ils travaillent dans une collectivité, parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils défendent l'ordre public, et pardon, on a le droit de se le dire, parce qu'ils sont agents d'un ministère qui est engagé dans la transition écologique. Et ils se posent au fond assez peu la question du gouvernement et de savoir quel est le bord politique.
Ils sont là
pour faire leur métier, leur engagement, et ils le font gouvernement après gouvernement. Et tant mieux que ça soit comme ça que ça se passe.
Moi, j'ai quand même le souvenir d'un ministre de l'économie, c'était en 2015, il s'appelait Emmanuel Macron, et il avait déclaré « Je ne vois pas ce que justifie que certains cadres de mon ministère, le ministère de l'économie et des finances, bénéficient d'un emploi à vie, et pas les responsables de la cybersécurité d'une grande entreprise. » On était au cœur du macronisme initial, celui de 2015, 2016, 2017, qui consistait à casser les codes, à casser les statuts.
Les
tabous. Emmanuel Macron s'y était attaqué très fort, y compris les corps intermédiaires et tout, en disant « Libérons les énergies, ça suffit, ces vieilles histoires de statut, ces vieilles lunes du 19e siècle, cassons aussi le statut de la fonction publique. » C'était un discours...
Il n'a jamais dit de casser le statut.
Non, il n'avait pas dit comme ça, mais vous comprenez que ça avait pu entrer par une oreille des fonctionnaires qui, quand ils ont entendu ça, je peux comprendre aussi ce que dit Léa en disant « Bon, le sens du boulot aussi, on l'a
perdu. » Non, deux trucs. Un, vous prenez des petits bouts. Le même Emmanuel Macron, ministre de l'économie,
il était candidat au moment où il a dit
ça. Il remettait l'État chez Renault, et à ce moment-là, on lui disait « Vous êtes souverainiste. » Et donc, parfois, il faut aussi remettre choses dans l'histoire. Ensuite, moi, ce que je crois, c'est que le statut de la fonction publique, c'est super moderne. Et donc, tout ce que je vais faire, comme réforme, comme transformation, je pense qu'on peut le faire dans le statut. Le statut, tel qu'il a été pensé, c'est des droits et des devoirs pour les fonctionnaires. Et je crois que c'est très moderne. Ce que je veux changer, c'est qu'à l'intérieur du statut, par contre, on fasse péter un certain nombre de carcans. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, je parlais des secrétaires de mairie. Vous êtes embauché dans la fonction publique, vous êtes titularisé, vous êtes fonctionnaire. Vous arrivez, on vous a embauché en catégorie C. Et en fait, si vous ne passez pas un concours administratif à un moment donné, c'est-à-dire que vous passez une année à préparer un concours très théorique, vous n'allez pas pouvoir changer de grade dans la fonction publique, progresser dans votre carrière. Ben moi, ça, je crois que c'est un truc qu'il faut qu'on puisse changer. Ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui font le même métier, mais en fonction qu'ils soient contractuels de la fonction publique territoriale ou titulaires de la fonction publique d'État, tout va être différent pour eux. Leur modalité d'embauche, leur modalité d'évolution de carrière, leur rémunération. Et d'ailleurs, on va faire en sorte qu'ils ne puissent pas bouger de l'un à l'autre. Donc moi, je crois qu'il faut mettre beaucoup plus de fluidité et de mobilité. Ça, j'assume parfaitement. Faire en sorte que quand on se forme, ça puisse permettre de progresser dans sa carrière. Faire en sorte qu'on puisse valider les acquis de l'expérience pour pouvoir bouger. Donc moi, j'ai un discours là-dessus de mobilité. Et je pense qu'il faut casser plein de rigidités. Vous voyez, je parle à beaucoup de maires qui me disent « Moi, j'ai un système dans ma collectivité où pour promouvoir un agent, il faut absolument que j'ai embauché 3 agents. Ben, » Il s'avère que comme j'ai du mal à embaucher les agents, je suis même plus capable de promouvoir les agents qui sont dans ma collectivité. Ben, ça, c'est une rigidité. Ça, j'ai envie de faire péter ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut garder le statut, et changer beaucoup de choses à l'intérieur du statut pour mettre de la mobilité, valoriser les compétences par les performances, par les résultats. Ce n'est pas des gros mots dans ma bouche.
Il y a des secteurs dans lesquels c'est très compliqué d'évaluer c'est quoi les performances, par exemple, pour une assistante sociale, c'est quoi ces performances, le nombre de dossiers qu'elle traite dans la journée.
Réussir à déployer un plan de sobriété, par exemple, réussir à réinsérer des jeunes quand on est dans le domaine social.
Quoi, réussir à réinsérer des jeunes, qui va
on
dire
est dans
ça, c'est bon,
un
c'est
une réussite.
Mais en fait,
tout n'est pas mesurable comme ça.
Moi, ça, j'ai un gros différent avec vous.
Ah oui, là, je pense.
C'est parce que, en fait, vous, votre idée, c'est de dire performance, c'est le gros mot. Et donc, performance égale, pardon, j'espère pas trop vous caricaturer, mais vous allez rémunérer tous les fonctionnaires à comment on diminue la dette dans le pays, quoi, grosso modo. Comme dans une entreprise, on aurait le résultat financier. C'est pas ça, moi, ce que je veux dire par performance. Performance, c'est se dire, on se fixe des objectifs. Et je suis pas très éloigné de ce que vous disiez.
Dans la police, ça a donné la politique du chiffre.
Et c'est ça qui est beau, la politique.
Et c'est pas du beau travail, la politique du chiffre.
Après, j'ai bien compris, vous avez un léger petit problème avec la police. Mais ça aussi, je le mets pour la
petite. Non, un peu plus tard. Je suis assez d'accord sur la question de la fonction publique, indépendamment de la police.
J'essaie de pas dévier de ma route.
De l'action publique.
On a le droit de se fixer des résultats. On a le droit de se dire que une politique publique, ça va être par
et
exemple.
C'est peut-être ça qui a fait perdre du sens à des agents
anglais. C'est par exemple déployer des pistes de kilomètres cyclables. C'est par exemple déployer des bornes électriques sur le terrain. C'est par exemple fermer des centrales à charbon. Tout un tas de trucs qu'on est, soit dit en passant, en train de faire. C'est se fixer des objectifs de politique publique. C'est de les rendre transparents. C'est de les afficher. C'est ça qu'on a fait. On a même ouvert un baromètre de l'action publique, deuxième site qu'on pourrait afficher sur le chat, où on donne la possibilité aux Français d'aller dans leur département, d'aller sur baromètre d'action publique, et de dire, voilà les politiques prioritaires, il n'y a rien de caché, tout est transparent, voilà ce qu'on veut faire pour changer la vie des gens, et on l'assume, et c'est ça la noblesse de la politique, moi aussi je crois à la politique, et à ce moment-là, on rend mesurable les résultats, combien on a réussi à dédoubler de classe, par exemple, ça c'est un truc qui est très très concret, c'est une politique publique dont je suis fier, combien on a réussi à embaucher d'apprentis, pardon, mais l'apprentissage, on a démarré en 2017, il y avait 200 000 dans le pays, on a terminé le quinquennat, il y en avait 750 000. Je pense que c'est un des sujets de grande fierté de cette action-là. Et on va atteindre 1 million d'apprentis, j'en suis absolument persuadé. Mais voyez, ça c'est un objectif qui est mesurable, qui est quantifiable. On peut l'amener à l'échelle d'un service administratif, d'un département. Et moi je crois à cette performance-là. D'accord. C'est l'engagement, c'est le mérite. C'est des mots auxquels je crois.
Sacha.
Ça fait quelques semaines que Bruno Le Maire nous dit que c'est la fin du quoi qu'il en coûte et qu'il y a plusieurs milliards d'euros à économiser. Comment vous allez protéger vos fonctionnaires? Comment vous allez dealer avec ça?
D'abord, je pense que c'est
et à quel point vous allez être impacté?
C'est un bon moment pour me poser la question parce que je viens d'annoncer des revalorisations des fonctionnaires. L'année dernière, on a consacré 7,5 milliards d'euros dans une année pour augmenter la rémunération des fonctionnaires. Il y avait beaucoup d'inflation, mais quand même, le ministre de la fonction publique qui a le plus augmenté le point d'indice, c'était au début de François Mitterrand qu'il fallait remonter pour faire ça. Là, il y a quelques jours, on vient de prendre la décision de refaire exactement la même enveloppe budgétaire. Ça va être 3,5 milliards sur la demi-année, là, pour finir l'année. Et puis, l'année prochaine, ça sera un peu plus de 6 milliards d'euros qu'on remet. Donc, vous voyez, je n'ai pas été bloqué dans ce projet-là pour augmenter les fonctionnaires. Pareil, il fallait faire face à de l'inflation. Ça continue, on se bat, mais elle continue d'être là. Et moi, je crois que investir sur nos agents publics, c'est plutôt une logique d'investissement pour mieux transformer, pour rendre des politiques plus efficaces. Et j'assume parfaitement de dire qu'il y a des trucs, qu'on peut faire mieux avec moins. Et il y a plein de politiques publiques où c'est possible.
Comme quoi, par exemple, j'ai un peu du
besoin. Je vais vous donner un exemple passé, puis un exemple d'un truc qu'on est en train de faire. Un exemple passé, c'est les impôts. Les impôts, c'est une administration où il y a moins de fonctionnaires aujourd'hui qu'avant. Ça marche mieux qu'avant. Et je crois que c'est un avis assez commun. Ceux qui ont besoin de le faire en ligne, etc., ça marche plutôt bien.
Ça, c'est la numérisation
pour les
impôts. Si
on a besoin de parler à quelqu'un, on y arrive aussi. Et il y a plein de retours. Les impôts, c'est un service public que les Français plébiscitent plutôt, alors que c'est les impôts.
Donc, un truc actuel.
Je vais vous donner un truc actuel. On est en train de numériser toute la procédure pénale. C'est-à-dire que concrètement, on est en train, pour la justice, de vider les tribunaux de leurs papiers. Ça, c'est du bon numérique. En fait, il y a des agents qui étaient payés à faire de la logistique dans les tribunaux, c'est-à-dire de transporter des brouettes de papier parce qu'on n'avait rien numérisé du tout. Ça fait qu'on réduit le temps administratif passé sur une procédure de 97%.
Ils font quoi, les agents, du coup, maintenant ?
Mais c'est pas comme si on n'avait pas de problème à embaucher des agents. Vous voyez, on n'a pas diminué le nombre. On a embauché 10 000 magistrats, greffiers dans le quinquennat et on est en train de continuer. Le ministère d'Éric Dupond-Moretti, c'est celui qui a quasiment le plus augmenté d'un point de vue budgétaire. Donc, en fait, ils répondent mieux à ce qu'attendent les Français. Ils veulent quoi ? Ils veulent que les délais de la justice se réduisent. Ils ne veulent pas être trimballés d'une administration à une autre. Ils veulent parler à quelqu'un quand ils ont besoin de parler à quelqu'un. C'est pour ça qu'on réouvre des maisons France Service. On en a ouvert 2600 sur le territoire. Ça veut dire que... Et ce n'est pas des trucs en l'air. Et chaque mois, il y a 700 000 démarches qui sont faites dans les France Service. On va atteindre, c'est mon objectif pour fin 26, et je pense qu'on l'atteindra avant, 1 million de démarches tous les mois dans le réseau France Service. C'est-à-dire qu'il y a quand même que 12 millions de Français chaque année qui vont pouvoir aller dans un espace physique, parler à quelqu'un hein, qui a un prénom, voir un visage, et se voir
répondre. Et il y a un déploiement dans les zones rurales qui a été annoncé.
Moi, je pense qu'il faut faire du bon numérique, c'est-à-dire du numérique qui marche bien, qui est accessible aux personnes en situation de handicap, par exemple, pour pouvoir justement concentrer nos efforts pour remettre des gens, des agents, ben là où il y en a vraiment besoin, c'est-à-dire un peu plus proche du terrain, quoi.
Je le disais tout à l'heure en vous présentant, Stanislas Guérini, vous avez été cofondateur de La République En Marche en 2016. Vous faites partie des pionniers, des premiers avec Emmanuel Macron, qui avait œuvré à son arrivée au pouvoir. Ici, dans cette émission, on a l'habitude d'observer les camps politiques qui, en ce moment, phosphorent beaucoup sur leur identité, leur positionnement, leur espace politique, leur stratégie. La gauche, la NUPES, depuis un an, on en parle beaucoup. Bernard Cazeneuve qui a lancé une initiative là récemment. À droite, c'était samedi dernier, les États généraux des Républicains, un an de réflexion, de travail, etc. Et avec vous, on voulait se poser la question ce soir, c'est pour ça que je suis content aussi que vous soyez là. Et le macronisme, il en est où dans son histoire? On en est où par rapport en même temps aux promesses de transformation de 2016 et à la politique qui est menée aujourd'hui? On a l'impression d'une radicalisation du macronisme, d'une droitisation du paysage politique, au point qu'on se pose tous la question de savoir si le prochain Premier ministre ne sera pas les Républicains. C'est quoi votre analyse à vous sur l'identité du macronisme?
C'est marrant que vous me disiez ça, parce que moi j'ai le sentiment qu'on a pas vraiment dévié depuis le début d'un point de vue idéologie. Et je rebondis.
Alors expliquez-moi.
Alors c'était pas clair pour nous depuis le début.
C'est du contradictoire.
Peut-être qu'on s'est trompé ou qu'on a été trompé, je sais pas. Mais dites-moi,
C'est du contradictoire, monsieur le procureur. On a le droit de répondre.
Oui,
la parole est à la défense.
Donc d'abord, vous me dites, bon, droitisation, etc. C'est quand même marrant que vous me disiez ça dans un moment où on a quand même dépensé beaucoup d'argent public. Et la question peut même se poser de soutenabilité. On a un sujet de dette, beaucoup d'argent public, beaucoup plus que tous nos voisins, pour justement protéger les Français pendant la crise sanitaire, pour protéger les Français de l'inflation.
C'est pas la quantité d'argent public dépensé qui, pour moi, qualifie une politique de droite ou de gauche. Dissolution des soulèvements de la terre, réforme des retraites, loi immigration qui arrive, quand même, là, c'est chaud d'y voir de la gauche.
Rien que Gérald Darmanin.
Ok, très bien.
Rien que lui.
J'essaie. Ouais, mais vous voyez, j'entends. Ça, c'est un peu facile.
Il est clairement de droite.
Il va te répondre clairement.
Un ministre de l'Intérieur qui embauche des policiers. Qui fait en sorte qu'il soit mieux rémunéré.
Un ministre de l'Intérieur qui vient de droite, moyens. Surtout.
Mais très bien, mais
vous quoi,
mais
de l'emploi.
Vous venez de la gauche, vous.
Moi, je m'en fous de qui vient de la droite ou qui vient de la gauche. Ce qui m'intéresse, c'est là où on va. Voilà, c'est pas là où on vient. C'est là où on va.
Où allez-vous donc?
Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc,
alors, vous n'avez pas des
d'abord, premier élément de réponse, c'est. Je l'entends quand même, de temps en temps, on a le sentiment que c'est nous qui sommes en train de détricoter les services publics, qu'on se retire, etc.
On l'entend.
C'est pas vrai. Et j'ai. Pardon, je ne veux pas être trop barbant.
C'est pour ça qu'on vous invite.
C'est important, les chiffres.
Je le démontre en investissement dans l'école, dans la santé, dans la police, dans la justice, dans les services publics de façon générale. Après, moi, quand je dis que je n'ai pas le sentiment qu'on est dévié, au fond, c'est quoi notre projet politique? Moi, pourquoi je me suis engagé derrière Emmanuel Macron? Parce que c'était un responsable politique qui disait le cœur du projet, c'est donner à chacun les moyens de choisir sa vie. Ça veut dire armer les gens, notamment par l'éducation, par la formation, en investissant massivement sur ces sujets-là, pour qu'on ait un peu plus les clés. Et je dis ça, moi, je viens d'un milieu favorisé, j'ai des parents aisés, j'ai fait une école de commerce qui est souvent HEC. un peu HEC. J'en suis très fier. J'ai bossé, il n'y a pas de problème. Mais j'avais tous les trucs, tous les héritages pour reprendre Pierre Bourdieu.
Vous aviez les bonnes conditions.
L'héritage social, culturel. Ben, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui fonde mon engagement à moi, c'est de me dire comment on fait pour investir, d'ailleurs un peu plus tôt dans la vie, pour que chacun ait les chances juste d'avoir le choix.
C'est l'émancipation. Tout le monde peut l'entendre, on est tous d'accord avec
ça veut dire
dans les faits.
Je le décline de façon concrète. Ça veut dire s'engager d'abord massivement sur la question du travail. Faire en sorte, et ça c'est notre fil rouge depuis le début, que le travail ça paye, qu'on crée des jobs. Pardon, on a démarré 2017... on était encore dans un chômage de masse. On est en train d'avoir un chemin Peut-être, on n'est pas encore complètement, mais vers une société du plein emploi.
À quel prix ?
Moi, j'ai 40 ans, j'en ai jamais entendu parler.
Non, ça fait 40 ans qu'on en parle, du plein emploi.
Je parlais de la revalorisation de l'apprentissage. C'était des filières qui étaient des voies de garage avant, y compris dans le débat public. Les métiers de la main, tous ces métiers-là, notamment dans les filières industrielles, ces métiers qui n'étaient pas valorisés. Ça, c'est un fil rouge de faire en sorte que, par la formation professionnelle, par le fait de créer des jobs, par la valorisation du travail, et c'est tout le sens de notre politique économique, ça fonctionne. Mmh. Si on veut que ça fonctionne, il faut par ailleurs protéger les gens. Et ceux qui sont les plus fragiles, plus éloignés des services publics, ceux qui en ont le plus besoin au fond, parce que c'est le capital de ceux qui n'ont pas le capital que je mentionnais à l'instant.
Genre les chômeurs, les retraités.
Et ça, ça veut dire...
Les gens,
protéger, ben,
les gens qui...
Pardon, moi, je suis plutôt fier d'être dans un gouvernement qui fait en sorte qu'il y a moins de chômeurs. Et on me dit, alors, vous créez des emplois précaires, etc. Pas du tout. Tous les chiffres montrent le contraire. Il n'y a jamais autant de création d'emplois stables,
oui,
en CDI.
Vous dites que vous voulez accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais par ailleurs, vous avez réduit les indemnités chômage dans le temps. Vous allez faire en sorte que les gens au RSA bossent et aient une activité. Enfin, c'est quand même un peu. Il n'y a pas que le travail, déjà. Il y a aussi la nécessité de faire en sorte qu'effectivement, que les gens vivent dans des conditions dignes. Et je trouve que votre discours est incohérent avec la réalité de votre politique menée au quotidien.
Je ne suis pas du tout d'accord. Pardon.
D'accord. Vous accompagnez les gens, mais c'est normal de leur réduire les indemnités chômage.
Non, mais voyez, vous me parlez, vous me dites, vous faites bosser les gens au RSA.
Bah, c'est une volonté qui a été affichée.
C'est un sujet qui est super intéressant. Parce que moi, une des personnalités politiques qui m'a donné envie de m'engager, c'est Michel Rocard.
Qui a créé le RMI, l'équivalent du RSA aujourd'hui.
Exactement.
Comme un droit, on est d'accord, sur condition de besoin.
Mais son projet, c'est justement de sortir les gens de cette situation-là. De faire en sorte qu'on puisse s'insérer, et qu'on puisse s'insérer notamment par le travail. Et donc, le projet comporte. C'est pas du travail forcé, évidemment.
Vous vous rendez bien compte que la réalité,
le projet
s'il y a des gens qui ne travaillent pas et qui sont RSA aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler en étant aussi au RSA. Il y a des situations très concrètes, des personnes qui, par exemple, sont en situation de handicap, dont la situation n'a pas été reconnue avec une AH, etc., qui aujourd'hui vont se retrouver à devoir travailler alors que ce n'est pas possible.
Oui, mais
c'est-à-dire que dans votre rhétorique à base de responsabilité, de choix, etc., si vous avez le choix, du coup, vous êtes responsable de votre situation. C'est ce qui veut dire...
Je vous laisse tous finir. Vous voulez terminer le tour de table et je réponds après.
Si vous voulez. Mais ça va dans cette rhétorique-là.
Il faut qu'on se dise des choses. Moi, je crois que le vrai scandale, c'est que, justement, on accepte l'idée qu'il y ait des gens qui soient au RSA et que 6 mois après, 1 an après... ils n'aient toujours aucune proposition d'accompagnement, et caricaturons pas ce que ça veut dire l'accompagnement. Ça peut être parfois des gens qui ont des problèmes de santé, parfois qui ont des problèmes d'alcool, ça peut être parfois des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Et donc les accompagnements, ils vont devoir être très adaptés. Et nous, c'est ça qu'on veut faire. C'est de faire en sorte que le fait de bénéficier du RSA, ça puisse être conditionné à une politique publique qui va vous proposer des choix, des solutions et un accompagnement. Et
donc, on pourrait les accompagner sans leur enlever leur droit.
C'est justement le cœur du projet. Et je crois que la gauche, dont je viens, a eu tort pendant longtemps de considérer que cette question-là, elle était secondaire. Qu'au fond, il y a plein de gens qui se contentaient de vivre avec le RSA. Parce que ce n'est pas ça que disent les gens. Les gens ont envie de pouvoir s'insérer, de pouvoir trouver un boulot et justement de pouvoir être accompagnés. Donc moi, je crois, c'est un bon exemple. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour en parler. J'assume de dire que ça fait partie du cœur de notre projet politique. Et moi, je crois au travail. Je crois au travail comme une forme
n'importe quel travail
d'émancipation.
Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation aussi des conditions de travail, du type de job proposé, l'ubérisation, etc. Il y a des boulots qui donnent absolument pas envie. S'il s'agit de nous remettre à coup de pied au cul vers ce genre de boulot ou des secteurs en tension, voilà, il va falloir y aller là maintenant parce qu'on a besoin de ça. Les jeunes, va falloir que vous alliez dans la restauration. Est-ce que on l'obtient via un chantage à je te supprime les allocs, je te supprime le RSA, ou est-ce qu'il faut pas engager un grand chantier? Depuis le Covid, c'est quand même assez évident que les gens ont envie de retrouver une autre forme de sens au travail, un grand chantier sur un grand Grenelle des conditions de travail et du travail où on écoute les acteurs, on écoute les salariés notamment et pas seulement les patrons et les besoins des patrons.
Bah, vous dites ça à quelqu'un qui fait ça toute la journée. Pardon, mais cette question des conditions de travail, moi, elle est au cœur de ce que j'essaie de porter pour les agents de la fonction publique. Tout à l'heure, on se parlait de sujets très concrets, d'égalité salariale, de santé au travail, de transformation des espaces de travail, de question du temps de travail. Ça, c'est mon quotidien. Donc, je crois que j'ai aucune leçon à recevoir sur.
Je suis pas une leçon. Je note juste que quand je parlais tout à l'heure,
la transformation
Donc, quand on disait tout à l'heure du fait que vous ne faisiez pas de politique, c'est un sujet qui est très, très politique,
mais
le travail.
Et
politique. Le débat, il n'est pas ouvert, en fait. Il n'y a pas d'espace pour parler de ça. La société a changé. Avec des aspirations qui ont changé, on se retrouve, alors vous connaissez les gens qui sortent d'AgroParisTech et qui sont là à dire « Moi, je sais faire plein de choses, j'ai des compétences, j'ai pas envie de les mettre au service de ce genre de travail. » Et puis le travail, c'est pas seulement nos conditions de travail, c'est aussi, comme le disait Léa, quand elle disait « Participer à l'action, enfin accompagner l'action du gouvernement en étant fonctionnaire, c'est quelle action ?» Les gens aussi ont envie de retrouver une souveraineté, tiens, ça c'est un mot qui est à la mode en ce moment, une souveraineté sur leur travail. Et c'est assez délicat en ce moment d'une souveraineté sur leur travail, c'est-à-dire y compris dans l'entreprise. Comment on refait ça? Est-ce qu'il faut redonner davantage de, comme en Allemagne, par exemple, de co-gestion dans l'entreprise avec les syndicats ou des choses comme ça? Il y a plein de pistes possibles, mais le débat n'est même pas ouvert là-dessus.
Non, c'est pas vrai que le débat n'est pas ouvert. Il est vraiment très profondément ouvert au moment où on se parle, entre les syndicats, le patronat. C'est même au cœur des questions qu'on a.
Sur la conférence sociale.
Il était déjà ouvert dans la question sur les retraites. Moi, je considère
qu'on a des masses.
Ouais, mais bon, ça a un peu débattu, mais pas suffisamment.
Non,
pas
suffisamment. Non, parce qu'il y a eu un 40
sur les questions des. Oui, c'est pas ça qui a
formé le débat.
Mais bon,
ça,
bref. Ouais. Mais je considère que les questions, elles sont intimement liées. Et pardon, je parle de ce que je fais au quotidien, mais ce sont des sujets qui sont très très concrets. Vous voyez, c'est la réforme des retraites, donc je suis pas en train d'éviter le sujet. En parallèle, moi, je considère que si les gens sont usés. S'ils sont usés à 64 ans, en réalité, ils le sont déjà avant. Et donc, il y a un énorme angle mort, pour être un peu concret, c'est les questions vraiment de prévention, de l'usure, de la pénibilité. Ce qu'on a décidé de faire, c'est justement d'essayer de faire cette révolution culturelle dans la fonction publique. On a dit, sur les métiers de l'hôpital, dont vous parlez tout à l'heure, on va mettre 100 millions d'euros par an pour justement aménager des jobs, des postes, pouvoir permettre de financer des formations pour que les gens puissent changer de métier. Il y avait un truc, je vais vous donner un exemple concret. Dans la fonction publique, vous faisiez un métier pénible, ça s'appelle les catégories actives dans la fonction publique, vous changez de métier, vous étiez dans la pénitentiaire par exemple, vous deveniez policier, toutes les années que vous aviez passées avant dans la pénitentiaire, j'ai redit policier.
Non, mais surtout, c'est pas un métier pénible finalement, policier.
Mais c'est des métiers en tout cas qui ont un bénéfice particulier de partir un peu plus tôt à la retraite.
Ouais.
Vous étiez dans la pénitentiaire, vous deveniez policier, toutes les années que vous aviez passées dans la pénitentiaire, ça valait zéro. Ça, on l'a changé.
Oui, la consommation des droits.
J'en profite pour le dire, parce que personne n'en a parlé. Mais on a fait en sorte que ces années, les droits que vous avez acquis, ils sont définitivement acquis. Mmh. Et vous n'avez pas les perdre en cours
d'eau. On a une dernière question.
Les questions de condition de
travail. On a une dernière question de Sacha.
Moi, j'aimerais bien revenir un peu sur En Marche. Ça fait maintenant 7 ans que En Marche, puis du coup maintenant Renaissance, prône un peu le dépassement du clivage gauche-droite. Le fait est que vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée et que vous allez être obligé.
Ça, c'est vrai, j'ai remarqué.
On vous l'aurait rappelé, sinon, c'est pas grave.
Soit avec les Républicains, soit avec la gauche. A priori, ce seraient les Républicains. Est-ce que vous n'avez pas été soit trop confiant, soit un peu naïf sur les institutions et sur le fonctionnement du Parlement ?
Non, d'abord, en fait, on a juste respecté le vote des Français. Je veux dire, c'est vous
et
moi,
la base.
Par notre vote, qui avons décidé qu'il y aurait une majorité relative. Et d'une certaine façon, les choses sont bien faites dans la démocratie. Les Français ont quasiment fait rentrer la proportionnelle. Ah oui, ça, c'était moi sur la barbe, pardon.
Ouais, on a retrouvé des archives.
J'ai un choc,
il y avait Snapchat à l'époque.
C'était des bons moments, c'était les premiers meetings d'En Marche.
Ouais.
La belle époque.
C'était une belle époque, ouais. Et moi, je pense que les campagnes, c'est des super moments.
C'est vrai.
Donc voilà, il faut l'assumer. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'abord, ce sont les Français qui ont fait rentrer la proportionnelle à l'Assemblée nationale, qui nous ont mis dans une position de majorité quand même,
relative.
Et donc, c'est-à-dire qu'on doit composer. Et il s'avère que c'est ce qu'on fait depuis le début du quinquennat. Moi, je ne crois pas trop à la coalition.
Mais là, vous êtes un peu soumis au chantage des Républicains sur les prochaines lois à passer.
Attendez.
Quand même,
je ne crois pas trop que ça va bouger d'un coup d'un seul et que les lignes de la majorité présidentielle vont être totalement transformées, quelle que soit la configuration politique. Il y a 10 000 questions autour du remaniement, etc. Vous en parlez juste avant que j'entre. Je pense que ça change pas grand-chose.
Vous avez des infos d'ailleurs,
Ben non, pas tellement. Ouais, moi, je m'inquiète.
Vous n'avez pas le nom, ça sortira pas d'internet.
Ouais,
vous avez des noms à nous donner.
J'ai compris qu'il n'y avait pas grand monde qui regardait au fond dans cette émission. c'est bien, vous m'attaquez.
Non, c'est bonne guerre, c'est bonne guerre. Ça joue.
Non, on discute.
Donc, on est dans cette situation et d'abord, c'est les Français qui l'ont voulu. Ça nous oblige à quoi ? Ça nous oblige à bâtir des majorités. Ben ouais, mais non, parce que dites pas ça. 49-3 bah, non, mais attends.
Bah, quand même.
Attendez, non, quand même.
49-3, il y en a eu sur combien de textes?
Vous êtes fort,
sur les retraites, 4 ou 5 textes, je crois.
Sur les retraites et sur le budget. Alors le budget,
le budget, il y en a 2-3 comme des.
Oui, il y en a plusieurs.
On est d'accord.
Oui, il y en a plusieurs.
Mais il y en a eu sur les retraites et sur le budget.
Attends, on a adopté combien de projets?
On a adopté combien de lois?
Mais sur des trucs
60. 60.
Mais sur des trucs pas essentiels. Oh, pas essentiels, c'est méchant ce que je suis en train de dire pour plein de gens.
Bah non, mais non, c'est pas vrai.
C'est pas structurant. La réforme des retraites, c'est structurant pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il le dit lui-même.
Bah, les énergies renouvelables, c'est pas essentiel. Le nucléaire, c'est pas essentiel. L'assurance chômage, c'est pas essentiel. La réindustrialisation du pays, c'est pas essentiel. La justice dans le pays, c'est pas essentiel.
Mais on n'est pas au cœur de l'ambition de réforme d'Emmanuel Macron.
C'est n'importe quoi de dire que c'est pas essentiel. C'est.
Personne ne dit c'est pas.
Ah oui, si, moi, c'est pas essentiel. La réforme des retraites. Merci de me
lâcher. En disant ça, Jean, je veux pas dire que la réforme des retraites, c'était pas un débat super important.
Mais c'est structurant pour le quinquennat d'Emmanuel Macron.
Je suis d'accord. Et c'est un marqueur politique. Et il s'avère que c'était une réforme qu'on a faite en n'ayant pas l'opinion avec nous. C'est une réforme qui était impopulaire. C'est une réforme qui était impopulaire.
Qu'il aurait peut-être même pas fallu faire.
Dès l'élection. Dès l'élection, vous voyez, mais c'est ça la politique. C'est ça aussi ce qui est noble dans la vie politique.
De faire des trucs impopulaires. Non, il y a de la noblesse aussi à reculer parfois.
C'est de faire ce qu'on croit qui est nécessaire pour le pays. Et en l'occurrence, le président, il a pris son risque, puisqu'il a dit pendant la campagne, je vais faire ça.
Oh, son risque, il n'a pas payé très cher. Il ne peut pas se représenter de toute façon. Donc,
pardon, le risque de ne pas être élu. Ok, très bien.
Mais, il ne peut pas être élu, il ne peut pas se présenter en 2027.
Parle de la campagne.
Ah, campagne. Pardon.
Et il a dit pendant la campagne, je vais faire la réforme des retraites à 65 ans. Ouais. Il s'est pas caché de ça.
Oui, non, mais de toute façon, il y avait Marine Le Pen en face. C'était évident qu'il allait être élu. Je veux dire, il se mouillait pas des masses.
Il n'y avait pas que Marine Le Pen et il a fait 4 points de plus qu'en 2017 au premier tour. Donc, on ne va pas refaire le match de l'élection présidentielle. Mais il a dit les choses. Mais la grosse différence, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est une réforme où on n'avait pas l'opinion avec nous. On l'a fait en sachant qu'elle n'était pas populaire. Et c'est ça aussi la vie politique parfois. Et du coup, on n'a pas su bâtir cette majorité parce que même des gens qui pensaient qu'il fallait faire cette réforme, à ce moment-là, ils n'ont pas pris leurs responsabilités. C'est ça qui fait qu'on a eu un 49-3.
Les Républicains, en l'occurrence, dont vous dépendez beaucoup
lois
aujourd'hui.
Mais qu'on a voté avec la gauche. Moi, j'étais au Parlement la semaine dernière.
L'IVG dans la Constitution,
je parlais d'égalité salariale.
Par exemple,
Dans la fonction publique, ce n'est pas des petits sujets.
Non.
On l'a voté à l'unanimité. Il y a l'extrême droite qui n'a pas voté avec nous.
Il se passe quoi après Macron? J'avais cette question.
Oui, tu as raison, on voulait aborder.
C'est ma dernière émission, je ne peux pas.
Ouais, vas-y.
Vous n'êtes pas invité pour la dernière?
Non, j'ai un truc.
Elle peut pas être là. Elle a un mot du médecin. Il se passe quoi après?
C'est quoi l'après Macron?
Je voulais rajouter un truc à la question de Léa. En plus, vous êtes un homme, vous avez dit vous venez de la gauche. Ça représente quelque chose pour vous, l'extrême droite. Les brutalisations successives des années Macron, qu'elles aient été policières, qu'elles aient été. On y revient. Qu'elles aient été des brutalisations dans l'Assemblée, à coup de nouveaux articles de la Constitution à chaque fois, laissent quand même un climat démocratique extrêmement dégradé, extrêmement favorable au RN qui ne cesse de monter, qui a quand même énormément progressé entre la première élection et la seconde élection de Macron. Si derrière, franchement, l'extrême droite passe, vous regarderez ces années comment? Vous assumerez votre part de responsabilité là-dedans?
Mais d'abord, moi je crois que notre responsabilité...
En tant qu'homme qui vient de la gauche...
Je vais vous dire, le chemin direct vers l'extrême droite, c'est de ne pas régler les problèmes des gens.
Essayez depuis longtemps, manifestement pas régler les problèmes des gens. Parce
au quotidien, là où il y a l'extrême droite...
Non mais sans langue de bois, vraiment.
La langue de bois, pardon, c'est vraiment ce que je pense. D'une certaine façon, moi je m'en fous des discussions sur l'après, qui, quoi, machin,
etc.
Mais on aura le temps de faire ça. Mais ce que je sais de façon certaine,
c'est
que si on ne fait pas notre job pendant ce quinquennat-là, alors là c'est boulevard.
Et comment vous expliquez alors
parce que Marine Le Pen et tous ceux qui sont autour d'elle, ils ne vivent que des problèmes.
Il nous a déjà fait le coup, Macron, de dire je vais vous donner des raisons de plus jamais voter pour l'extrême droite. Et ça, c'était à la première élection présidentielle. Donc il a déjà eu 5 ans pour essayer ce truc-là. Manifestement, ça ne marche pas, ça monte.
Manifestement, il a été réélu. Alors, j'ai bien compris.
C'est pas la question.
Que
je vous parle de la montée.
Vous avez perdu votre majorité à l'Assemblée nationale au profit notamment du RN, quoi.
D'accord, mais ce que je veux dire,
c'est que. Vous pouvez pas dire qu'il a été réélu comme ça.
Moi, je suis derrière un président de la République qui, Le Pen, il l'a battu 2 fois.
Mais c'est pas la question. On voit des violences d'extrême droite qui montent dans le pays. On voit des endroits dans lesquels, le maire de Saint-Brévin qui se
fait traverser. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord.
L'extrême droite, c'est aussi
pas juste. Macron, est-ce qu'il a gagné ou pas gagné? Ça va arriver. Vous en faites pas si ça continue comme ça.
Allez-y pour le dernier mot. Allez-y.
Vous donnez l'impression dans vos remarques que, au fond, c'est nous qui serions le fait générateur de l'extrême droite. Ce que je vous réponds, c'est que ça reste un combat absolu et un combat y compris dans les urnes. Mais Ma conviction, pardon de la partager vraiment, c'est que si on n'arrive pas à résorber le chômage, si on n'arrive pas à faire en sorte que nos services publics fonctionnent un peu mieux, si on n'arrive pas à remettre des usines dans le pays, parce que ça, c'est vraiment le terreau au Rassemblement national, quand il y a les industries qui se barrent, quand il y a les employeurs qui se barrent, quand il y a des plans sociaux, si on n'arrive pas à faire tout ça, c'est sûr qu'il y aura Marine Le Pen. Donc moi, je veux bien qu'on occupe 90% des temps d'antenne à faire les spéculations sur l'après et de qui ça sera la faute, etc. Je trouve d'ailleurs, pardon, mais peut-être vous comme nous, on internalise un tout petit peu trop l'idée que c'est comme si elle avait déjà gagné et qu'on était déjà en train de chercher les responsabilités. Battons l'extrême droite. Combattons-la, mais par les actes. Et moi, je
la
crois qu'on est
la prochaine loi immigration, elle va combattre l'extrême droite et les idées
de l'extrême
droite.
Et ça qui doit mobiliser
toute la migration. Ouais. Merci beaucoup. Je tiens juste, avant qu'on enchaîne, à remercier chaleureusement Jérémy et Benjamin qui ont filé 50 euros chacun. Merci beaucoup à Marthe qui a donné 30 euros aussi pour participer au financement de Backseat. Merci beaucoup. On est à plus de 25% de l'objectif qu'on s'était fixé pour la fin de cette campagne de financement de Backseat. Merci du fond du cœur. On va enchaîner avec la dernière séquence de l'émission. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, le quiz à la con, chers amis, comme chaque semaine, vous commencez à connaître le principe. Quatre questions, quatre propositions de réponses. Vous, chez vous, vous jouez et vous, sur le plateau, vous essayez de me donner la bonne réponse à chacune des questions. On va tester un peu votre culture politique ce soir. Première question de ce quiz à la con.
Allez.
Quel animateur télé s'est déjà présenté à des élections?
Oh.
Réponse A.
Jean Massier.
Julien Lepers. Réponse B. Jean-Pierre Pernaut. Réponse C. Nagui. Réponse D, Tex. Je précise que si vous connaissez la réponse, vous êtes prié de ne pas la hurler. Vous laissez les gens galérer. Lequel de ces quatre présentateurs télé s'est effectivement présenté à une élection?
C'est dur.
Je précise, une vraie élection de la vraie République, hein, pas une élection étudiante ou un truc comme ça. Hein.
Peut-être Julien. Julien Lepers.
Julien Lepers?
Peut-être.
Ouais.
Ah oui, oui, oui. Non.
C'était le oui en 2005. Ouais. Non.
Oui,
non.
Monsieur.
Il y a peut-être des jeunes qui nous regardent qui ne savent pas ce que c'est que la télévision ni qui sont ces quatre personnes. Auquel cas, désolé, vous ne jouez pas pour
cette question-là. Moi, il m'en manquait un quand même. Hein.
Lequel tu ne connais pas?
Je ne connaissais pas Tex, mais monsieur le ministre vient de me rappeler de qui il s'agissait. Il a fait des blagues douteuses.
C'est pas
le
meilleur.
Été...
Oui, il est cancel.
Ouais, voilà, non, il est un peu
il a...
Ah ouais, c'est pour
il
ça,
a perdu son job de manière assez instantanée. Ouais, non.
C'est ça.
Ouais, pas ouf.
Bah ouais. Bah lui alors. Pardon.
Moi, Langocha.
Voilà, le chat, vous votez dans le, dans le sondage du chat.
Il faut choisir.
Il faut choisir. Julien Lepers, la réponse A pour Stanislas Guérini. Léa, t'en penses quoi?
Je dirais Nagui.
Toi, tu dirais Nagui.
Ouais, je le vois bien faire une campagne.
Nagui, ok, d'accord.
Qu'il a échoué vraisemblablement, mais.
Nagui, tu sais pas.
Non, ça se trouve, il était élu de président de la République, personne ne comprend. Et il a dit non, non, pas du tout, je vais continuer avec Taratata. Tout à fait logique.
Nagui qui est né le même jour que mon père. C'est un arabe.
Oh, wow.
Mais c'est rigolo.
Ah, cool.
Sacha. Attends, t'as la réponse ou tu la donnes pas? Usul.
J'ai pas la réponse, mais je vais jouer le A en supposant que.
Julien Lepers.
C'est le truc sur lequel on est d'accord.
Si
tu veux donner ta réponse.
C'est Julien Lepers.
Donc Stanislas Guérini et Usul effectivement disent réponse A. Le chat répond Jean-Pierre Pernaut. Réponse B. Ok. Et Léa reste sur Nagui.
Trop facile.
Sacha, t'as l'air de connaître la réponse. C'est laquelle?
Je crois que c'est Julien Lepers.
Et c'est effectivement Julien Lepers. Oh. Bravo, bonne réponse. Oui, oui, oui.
À quelle élection?
1981. Julien Lepers, non c'est pas lui, 81, c'est un autre, hein, c'est voilà, François Mitterrand. Non, non, en 81, alors âgé seulement de 32 ans, Julien Lepers avait présenté sa candidature aux élections législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas une blague, dans l'Atlantique Nord. Il a obtenu glorieusement 181 voix au premier tour des suffrages, soit 6,86% des voix.
Quelle étiquette?
Oui, il était candidat, devinez l'étiquette.
RPR,
Julien Lepers.
C'est pas RPR?
RPR, bonne réponse. C'était Jacques Chirac, RPR.
Oh là là.
Julien Lepers, ouais, Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'est-ce qu'il avait foutu là-bas? Bref.
Bah, parachuté, je dirais.
Oui, auto-parachuté.
Oui, il devait avoir une maison de vacances. Une maison de
deuxième question de ce coup de. Ah!
Oh, waouh, oui. Vas-y, non, mais on peut recommencer.
Deuxième question de ce quiz à la con. Quelle info digne d'un western d'Andrew Johnson. Quelle info digne d'un western sur Andrew Johnson, qui était président aux États-Unis, est vraie? Parmi ces quatre propositions, laquelle est vraie?
Jones.
Réponse A. Lors d'un meeting, il a lancé parfaitement son lasso sur un opposant pour le faire taire. Réponse B. Il a gagné un duel en ayant pris une balle en pleine poitrine qu'il garda toute sa vie.
Oh, wow.
Comme dans un western. C. Lors de son inauguration, il est entré dans la Maison-Blanche à cheval. Ou réponse D, son slogan c'était « Dans la vie, il y a ceux qui votent et ceux qui creusent, toi tu creuses ».
La C, ça paraît un peu trop banal. Le cheval. Bon.
Bah, digne d'un western, cheval.
Mmh. Oui, mais je veux dire. Avec le c'est pas ouf, quoi, comme anecdote.
Pas ouf.
C'est comme, ouais, Giscard, il est reparti à pied, quoi, quand il a perdu, quoi.
C'est avec bon, bah, un panache cheval, parce que Giscard, adieu, c'est reparti en cheval, autant dire.
Oui, ah bah ça, c'est en
des souvenirs.
Mais je veux dire, ça coûte pas cher, quoi. Voilà.
Non, il est arrivé.
Alors que
non,
se prendre une balle et survivre, ça, c'est un niveau au-dessus de.
C'est là que tu vois l'association entre virilité, politique.
Ah bah attends, c'est Andrew Johnson, Jackson. Hein.
Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, mais bon, c'est vraiment pourri, quoi. Tout est pourri, là.
Bah, c'est la balle, je suis sûr.
La balle ?
Ah ouais, je suis sûr qu'il a pris une balle.
Tu prends une balle ?
Ah ouais. Il l'a gardée toute sa vie. C'était juste à côté du cœur. Je connais cette anecdote. Non, je plaisante, je ne l'ai jamais entendu. Je ne sais pas du tout qui était le 7e vrai.
Purée, on y a cru.
Non, mais c'est,
comme
c'est
à la réforme de la fonction
fait de la politique.
Allez ! Allez, c'est à vous.
Tout s'explique.
Réponse. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas, moi je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?
Est-ce que tu serais entré en cheval à la maison?
Déjà, vous auriez essayé de ne pas vous prendre une balle.
Déjà, ouais. Est-ce que tu aurais pris une balle dans la poitrine? Est-ce que tu l'aurais gardée? Est-ce que tu aurais fait taire un opposant avec un lasso dans un meeting?
Ça, ouais.
Là, je te vois bien faire ça.
Ouais.
Ouais, ouais.
Ah ouais, c'est cool ça.
Ou alors, dans ça, la vie, il y a viril, ceux qui creusent et ceux qui veulent.
Non, si, si, mais c'est, plus, okay. C'est fun. C'est vrai que le cheval, c'est un peu naze en fait.
Ok, d'accord. Bon, du coup, vos réponses.
Bon, le lasso.
Le lasso, réponse A.
La balle.
Stanislas Guérini, la balle, réponse B. Usul.
Moi, je vais voter Stanislas Guérini comme.
Je savais que la fin.
La dernière fois.
Incroyable. Sacha, tu la connais celle-là ?
Non, mais moi, je vais voter Usul et Stanislas Guérini, du coup.
Réponse B. Le chat a voté réponse C en majorité. Le cheval à la Maison Blanche. Et la bonne réponse, c'est bien la réponse B. Bravo.
Oh, et voilà.
Bravo, bravo.
Oh là
effectivement.
Là.
C'était en 1806, il était à l'époque commandant en chef de la milice du Tennessee. Lors d'une course hippique, un homme l'accusa de tricher sur son pari, puis il insulta sa femme Rachel. Il a parlé de sa femme. Ils ont fait alors un duel au pistolet, comme c'était la coutume à l'époque. Il s'est effectivement pris une balle en pleine poitrine et a survécu. Son adversaire, lui, est bien mort, par contre. Donc oui, c'était effectivement... il s'est bien pris une balle et il l'a gardé toute sa vie. Voilà. Troisième question de ce quiz à la con. Quel surnom n'a jamais eu Charles de Gaulle ?
Ah.
Pareil, si vous connaissez la réponse, vous la criez pas, vous laissez les autres galérer. Réponse A, l'homme du 18 juin. Réponse B, le connétable de France. Réponse C, Charles le Gaulois. Ou réponse D, le général Micron.
Micron. Pareil. Ah, Charles le Gaulois, c'est pas terrible. Hein.
Ouais, mais les Anglais.
Ouais, mais les fastoches. Le
18 juin, c'est pas l'homme du 18 juin. Général Micron.
Bah, c'est l'homme. Il y en a beaucoup, en fait, qui n'avaient jamais entendu parler de De Gaulle avant son coup d'éclat à la radio. Hein. Donc,
bah ouais.
Il y en avait énormément.
Gens pour qui c'était
il y aurait eu Baxit à l'époque, on l'aurait à peine.
On l'aurait pris en Skype.
On l'aurait pris en Skype.
Ah, ça veut dire que nous, on serait restés, ce qui n'est pas terrible non plus. Donc,
ouais. Ouais.
Ouais, pas fou.
Ouais. Non, on va arrêter les blagues là.
On va arrêter les comparaisons
hasardeuses. Arrêter, ouais, non, non.
Ça va enchaîner. Tirer, là.
Voilà, du coup, lequel surnom il n'a jamais eu ?
Moi, je réponds après lui, là.
Pour une fois. Ouais, je pense Charles le Gaulois, je sais pas, c'est trop nul.
Charles le Gaulois, ok.
C'est vrai que c'est pourri, mais c'est tellement facile.
Charles le général Micro, je vois bien des pétainistes dire « Ah oui, c'est le général Micro, là, celui qui est à la radio, là, qui fait que ça, quoi. » Tu sais, un truc méprisant. Il y avait plein de gens de droite ici qui disaient des trucs comme ça.
Il y en avait deux, trois, ouais. Mm. Sacha
ouais, général Micro. Moi, je...
Général Micro, ouais. Vous n'y croyez pas ?
Okay, ça, c'est ma manière de diverger, quoi. Sinon, ça va trop.
Bah, moi, je fais ça à chaque fois, mais ça paye pas.
Donc, Usul, toi, tu restes sur la réponse C ?
Ouais.
Stanislas Guérini, la réponse D. Léa.
Bah, je vais dire B alors.
Réponse B, le connétable de France. Mmh. Ok.
C'est quoi un connétable ?
Moi je vais dire A. C'est un bar dans le Marais qui ouvre. Si, c'est vrai.
En plus, c'est
à minuit,
vrai.
Ils déplacent les tables et on peut fumer. Au
avec comme ça,
étage.
On connaît plus
mais
les tables.
Je crois qu'ils sont fermés maintenant. Ouais. Enfin, c'était trop cool il y a quelques années.
Du coup, connétable.
C'est rue voilà. Des archives.
La fatigue.
Ok, je vois l'idée.
Sacha.
A.
Toi, tu dis réponse A, l'homme du 18
juin.
Ah
ouais, je sais pas.
D'accord. Le chat a répondu réponse D, le général Micro. Eh bien, la bonne réponse, c'est Usul qui l'a. Il aurait fallu faire l'union quand même. Non, c'était bien la réponse C. Charles le Gaulois n'a jamais été un surnom du général de Gaulle.
Non, c'est trop basique.
Évidemment, l'homme du 18 juin, Sacha.
Ah ouais, non.
L'homme du 18 juin.
Ouais, bon.
Oh, ils ont parlé que de lui, là, au truc de LR ce week-end, t'aurais dû regarder. Non, t'as rien raté, je te rassure. Le connétable de France, c'était un surnom que Churchill lui a donné. Un chouïa méprisant, mais ça, c'est c'est Churchill. Le général Micro en référence à ses 77 interventions à la radio pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ça veut dire quoi, connétable, mis à part le bar dans le Marais, pour de vrai,
c'était, il fut un long moment à l'époque de la monarchie où le connétable, c'était le premier ministre du roi. Le connétable du roi. Le connétable, c'était...
Le chancelier, quoi. Le...
Oui, c'est ça.
Ouais, pas le chef pour rien dans cette émission.
On a des choses à apprendre, c'est sûr.
Connétable, voilà, c'était le numéro 2.
C'est pas péjoratif, du coup.
De quoi ? Le connétable ? Quand ça vient d'un premier ministre britannique, ça fait référence à la royauté française.
Mais Churchill,
c'est le côté désuet qui est méprisant.
C'est le côté désuet, surtout français.
Les Anglais, ils sont comme ça, quoi.
Les rois de France qui ont essayé d'envahir le pays pendant quand même un sacré nombre de siècles, n'ont jamais réussi, quoi. Donc il reste, voilà, il y a un fond de blague et d'ironie de la part de nos amis britanniques qu'on embrasse.
Connétable, général de l'armée.
Ah, c'est le général de l'armée, le connétable ?
Chef des armées.
Ah, qui plus tard est devenu le maréchal.
C'est aussi pour ça que Brexit va s'arrêter.
Parce que je raconte conneries. Quatrième question de ce quiz à la con. Que peut-on trouver au musée Jacques Chirac en Corrèze ?
Ah.
Vous l'avez visité ?
Pas du tout.
Vous avez raté un truc.
Pourtant, je suis allé en Corrèze.
Réponse A. Est-ce que ce sont ces deux chiens empaillés ?
Non.
Réponse B. des sandiaques de cow-boy offertes par Bill Clinton. Réponse C. Un autoportrait en acrylique. Réponse D. Une pomme. La pomme. La fameuse pomme. Parmi ces quatre propositions... Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Au musée Jacques Chirac en Corrèze.
Il y a une seule bonne réponse. Trois trucs qui étaient vrais.
Parce que dans votre tête, il y en avait trois qui étaient possibles.
Ça aurait été vraiment
Un
festival.
Les chiens, c'est pas possible. J'espère que c'est pas ça, quoi.
Bah, quand même.
Ah, les Santiago, c'est très fort, quand même.
Ah ouais.
Moi, je dis les
Santiago. Ouais, mais empaillés, des chiens empaillés.
Les Santiago, ouais.
Les Santiago empaillés.
Ceci dit, moi, c'est vrai que. Non, c'était un truc de merde.
Les Santiago empaillés.
Santiago, moi, je vote Santiago aussi.
Ou la pomme empaillée.
La pomme, ce serait fort.
Jules, t'en penses quoi ?
Moi, je crois beaucoup au Santiago parce que c'est. Je crois que dans ce musée, il y a énormément de cadeaux qu'on lui a fait. Et il y en avait beaucoup trop, même pour son bureau et tout. Donc, au bout d'un moment, c'est parti dans le musée Jacques Chirac. Donc, je mise plutôt sur les Santiago. L'autoportrait, j'ai pas souvenir qu'il peignait.
En fait, j'ai compris, il googlise tout.
Mais oui, il triche depuis tout à l'heure.
Tu fais quoi ?
Ah, c'est possible. Ah, mais attends, ça explique plein de trucs. Ah, mais merci.
Depuis le début, non, j'aime trop le jeu.
Bien sûr,
moi.
C'est pour ça que t'as gagné l'année dernière.
J'aime trop le beau jeu.
C'est Adèle qui avait gagné l'année dernière.
Ah, oui.
Un peu de respect pour les tonneaux.
Pardon, excuse-moi, Adèle.
Non, en plus, non, tu triches pas.
C'est faux. Je suis prêt à en répondre devant une commission d'enquête.
Ah oui, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que Marlène Schiappa...
Ah oui, d'ailleurs, Marlène Schiappa...
On attend les conclusions de la commission d'enquête. On verra ce qu'ils écrivent dedans.
Oui, c'est vrai.
On attend le rapport.
Avec impatience.
Bon, il est temps que ce quiz se termine.
Ouais, ça commence à tirer en longueur.
Il est 10h05.
Hein. Ça termine. Il y a une dernière question, après c'est fini. Bon, la bonne réponse, selon vous, c'était quoi ? Santiago, pourquoi Usul ?
Les Santiago.
Santiago aussi pour Stanislas Guérini, le retour de l'Union.
L'autoportrait.
L'autoportrait en acrylique pour Léa, Sacha.
Santiago.
Les Santiago également. Le chat a voté Santiago également. Et c'est la bonne réponse. Bravo, effectivement, les Santiago. Effectivement, Chirac a fait le choix de faire don de ses quelques 5000 cadeaux au conseil départemental de Corrèze. Tu es vachement contente de voir gérer ce merdier. Et on peut retrouver des centaines dans ce musée, dont les Santiago offerts par Clinton, effectivement. Donc visitez le musée Jacques Chirac si d'aventure vous allez en Corrèze. Cinquième et dernière question de ce quiz à la con. Xanad Jegedi, homme politique hongrois d'extrême droite et antisémite,
oh là, ça commence bien,
a découvert que sa grand-mère était juive. Qu'est-ce qu'il a fait ?
Il l'a tué ?
Réponse A, il s'est suicidé.
A.
Réponse B, il a effacé toute trace de son passé en éliminant sa famille. Oh. Réponse C, il a quitté son parti, s'est converti au judaïsme et est parti vivre en Israël.
Ah.
Réponse D, il a juré sur la vie de Tata Rachel que c'était faux, il a continué sa vie normale.
Eh, hey, sympa votre quiz.
Ah ouais.
Il y a une ambiance. Ah, faut voir qui l'incarne en plus quand même. On l'embrasse d'ailleurs pour cette fabuleuse question.
Max Chabat.
Bon thème pour faire des blagues.
En plus, je le vois bien. J'ai envie de l'entendre dire la D. J'ai envie d'entendre Max prononcer cette réponse.
Ouais.
Parce que j'imagine dire ça. Qu'est-ce qu'il a pu faire ?
Selon vous. C'est histoire vraie.
Ah, il a fait son alia, hein. La C, hein.
Ouais, je pense, ouais.
Il est allé.
Je vois la C, moi.
Il a retrouvé une deuxième vie.
C'est optimiste.
Il est retourné, exactement. Il a été en Terre Sainte, là.
Et maintenant, il tient une boîte de nuit à Eilat. Non, mais j'en sais rien.
Une boîte LGBT.
Non, je sais pas. Écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Après, c'est sa grand-mère maternelle ou comment ça se bidouille après, tu vois ?
C'est là où il est fort, il creuse.
Oui, si, maternelle, je crois.
Bah, oui. Ah non, parce que s'il se convertit, c'est qu'il n'est pas juif de base. Donc, c'est que sa mère n'était pas juive.
Tu dois quand même te convertir si tu le découvres plus tard.
Ah non.
Ça dépend
c'est
des
par
courants.
La mère, hein.
Ouais. Ça dépend des courants au sein du parti.
Eh ben, je vais vous laisser là-dessus. Je sens que c'est glissant.
Non, non, en fait, ouais. De base, si ta mère est juive, t'es juif, point. Après, tu fais ce que tu veux de ta pratique de la religion, mais.
D'accord, ok, ok, ok.
Ça se transmet par la maman.
Eh ben, écoute, voilà. De toute façon, j'ai pas la réponse à la question, donc j'en sais rien.
Moi, je crois qu'il s'est suicidé.
Oui, voilà, je vais dire
suicide,
pareil.
Réponse A, suicide. Réponse A, suicide.
Tu sais, ils sont un peu extrêmes à l'extrême droite, c'est d'où le.
Ah, ça vient de là. Du fait qu'ils sont un peu. D'accord. Léa.
Là, c'est.
Réponse C, il a quitté son parti, s'est converti au judaïsme et est parti vivre en Israël, d'accord.
Pareil, là, c'est.
Toi aussi, la réponse C, le chat a voté réponse C aussi, à 66%.
Vous voulez des happy end ?
Eh bien, c'est la bonne réponse, happy end. Oui, 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 c'est une histoire vraie.
Incroyable.
Âgé de 30 ans, il était vice-président du Jobbik, le mouvement pour une meilleure Hongrie. Il était l'étoile montante de l'extrême droite hongroise, ce bonhomme. Seulement, en juin 2012, il découvre ses origines juives que ses parents lui avaient jusqu'alors cachées.
Et aujourd'hui, il s'appelle
Il a déclaré, c'est sûr. C'est sûr, il va me falloir un certain temps pour digérer tout cela, admet-il publiquement quelques mois plus tard. Il s'est finalement converti, il a quitté son parti, il est parti vivre en Israël. Donc c'est une histoire vraie, absolument. Comme quoi, il y a des happy ends aussi, et on lui souhaite le meilleur. C'est la fin de ce quiz à la con, chers amis. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont fait un don. Je vous rappelle que la semaine prochaine, pour la dernière émission, attendez avant les applaudissements, pour la dernière émission, la semaine prochaine, il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui ont donné, quel que soit le montant que vous donnez sur KissKissBankBank. Par contre, il faut que ce soit sur KissKissBankBank. Il y aura un tirage au sort pour gagner un t-shirt dédicacé. Il y aura 5 t-shirts à gagner, t-shirt dédicacé par tous les chroniqueurs de l'équipe. 10 t-shirts, pardon, à gagner. Profitez-en. Merci du fond du cœur pour vos dons. Merci si vous nous regardez en replay sur YouTube. Vous aussi qui aimez regarder Backseat en replay, n'hésitez pas à faire un don. On a besoin de vous. Si toutes les personnes qui regardent les replays de Backseat donnent 1 euro, alors on rentre dans nos frais, on réussit à être à l'équilibre financier sur cette saison et on envoie un très beau message à Internet et au monde. Merci du fond du cœur. C'est la fin de cette émission. Merci tout le monde. Ciao, bye bye.